Je ne sais pas si il vous arrive de stresser. Je pense que oui, pour la plupart d'entre nous. Je me rends compte que avec l'outil informatique, chaque fois que je dois me présenter, il y a un grain de stress. Il y a toujours quelque chose que voilà, pourtant simple. On ne va pas mettre nos lacunes sur le compte du diable. Il faut que je m'améliore, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne les choses simples, les bases de la vie. J'ai lors d'un message passé parlé de la nécessité pour le chrétien de faire partie d'une communauté chrétienne. Parce que sa place est dans une assemblée chrétienne. J'ai aussi déjà évoqué ce que peut être une prière complète, ce que peut constituer une prière, et aussi les différentes formes de prière qu'il y a. Et je disais à l'époque qu'on ne doit pas laisser un certain nombre de choses à certaines dénominations. Nos églises ne doivent pas être des églises spécialisées ou des églises basées sur un ou certains versets de la Bible. Nos églises doivent être tout simplement basées sur la Bible dans toutes ses richesses et dans toutes ses vérités. Des hommes comme Martin Luther, Calvin ont été utilisés par le Seigneur pour nous approcher, nous, beaucoup plus de Dieu. Lire la parole de Dieu, chacun de nous, connaître la parole de Dieu dans toutes les langues a été, je dirais, démocratisé. C'est accessible à tous. Ce n'est plus l'apanage du clergé. Nous devons nous accaparer de toute la richesse que contient la Bible. Aujourd'hui, je veux avoir en fait un court message pour nous permettre à la fin de ce message d'essayer de pratiquer ce que nous aurons entendu. Dimanche dernier, je posais la question qui était le président de la louange aujourd'hui. Et il s'est avéré que c'était mon frère Rat. Et je lui ai dit que je voulais prêcher aujourd'hui sur la louange et l'adoration. Le verbe adorer a pris un sens qui veut dire rendre hommage à un être divin. Chez les Hébreux, j'ai découvert que ça se disait Shah, Shah. Mais en grec, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas le prononcer. Je vais essayer. Prosounesis, en grec. Et comme on est chez les Hébreux comme chez les Grecs, ça évoque la même chose. Le geste de s'incliner, de se prosterner ou même de se jeter face contre terre devant l'autel d'une divinité, devant quelqu'un ou devant Dieu. C'était une marque de respect devant ses supérieurs. Adorer Dieu, c'est donc reconnaître sa supériorité, se prosterner devant lui. Nous pouvons trouver des exemples d'adoration dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7, au verset 11, qui nous dit: Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. De même, nous trouvons dans le livre des Corinthiens, premier livre des Corinthiens, chapitre 14, verset 25, où on nous dit, ils tombaient face sur terre et ils adoraient. L'apôtre Paul, là, dans le livre des Corinthiens, nous parle un peu dans l'ordre dans l'église, où un certain nombre de choses, le parler en langue, utilisé d'une manière pas très catholique, ne nous sert absolument à rien. Ne nous sert à rien, ne nous apprend rien. Or, si nous faisons bien les choses, celui qui vient pour une première fois, en écoutant par exemple une prophétie, pourra se convertir. Et dans ce cas précis, c'est quelqu'un comme ça qui se convertit, qui commence par adorer notre Seigneur. L'adorateur doit avoir ce sentiment d'un être plus élevé, d'un être celui qui est Dieu. Notre adoration va nous transporter vers le Seigneur, car il est là. L'adoration peut être aussi un acte ou un sentiment de contemplation. Nous adorons notre Seigneur, nous le contemplons. Qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Des fois, au moment où les autres adorent, on le contemple, on contemple ses merveilles. On n'adore pas son père, ni sa mère. On les respecte. On dit souvent à la personne qu'on aime, je t'adore. Retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras seul Dieu. C'est Jésus qui le disait à Satan. Seul notre Dieu a le droit d'être adoré, parce qu'il est Dieu. L'adoration, le temps d'adoration est un temps privilégié pour le chrétien qui passe un temps avec son Créateur. Très peu de chrétiens arrivent à atteindre ce moment de relation, je dirais, intense avec le Créateur. Cette relation n'est pas connue de tous les chrétiens. L'église où nous sommes ensemble nous donne une certaine force pour y parvenir. Quand nous chantons, quand nous adorons ensemble Dieu, nous partons tous riches. Mais si c'est une seule personne qui a cette capacité de se transporter dans l'adoration, de connaître effectivement son Seigneur, son Dieu, il est plus difficile à la personne seule de conduire les autres. Cependant, celui qui a ce privilège, s'il y en a parmi nous, peut toujours mettre cette grâce-là au service de tous. Si nous lisons Jean 4, les versets 23 et 24, la Bible nous dit « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Car c'est ce que le Père nous demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas une histoire de dénomination, ni une histoire de personne, ou une histoire de tempérament, ou une histoire de fort ou de faible, de riche ou de pauvre, du sud ou du nord. L'adoration, c'est une histoire de soumission. Dieu, il est Dieu et il faut l'adorer. Notre attitude d'adoration doit être une attitude particulière. Quand nous adorons notre Seigneur, ça ne doit pas être juste un temps, juste un laps de temps où, voilà, c'est fait, c'est fait. Non. Il faut nous approcher de Dieu. Il faut nous approcher sincèrement, avec cœur, avec joie, dans la soumission à Dieu. Ces genres d'attitudes se retrouvent souvent dans les pays du Sud, où les gens se laissent vraiment approcher, se laissent toucher par le Seigneur. Nous voyons l'attitude des anges vis-à-vis de Dieu. Les anges, comme nous l'avons lu plus loin, se sont prosternés. Il y en a qui se sont jetés face contre terre. Nous n'allons pas, nous, ici, nous jeter face contre terre. Déjà que nous, les protestants, on nous traite d'église sectaire. Certains ne comprennent pas ce qu'on fait, forcément. Nous n'allons pas faire des choses qui choquent. Mais nous devons chanter. Nous devons adorer notre Dieu par nos louanges, par nos chants qui vont à lui. Nous devons adorer notre Dieu comme notre environnement, comme Nantes, comme les gens de notre famille peuvent comprendre, tout simplement. Notre adoration ici est traduite par des chants qui s'apparentent à du slow, du blues, des chants qui sont généralement chanté à voix pas trop légèrement. Et ceci précède le message, peut-être, la sainte scène, des moments où nous voulons adorer Dieu, où nous voulons nous approcher de lui. À la différence de l'adoration, il y a aussi la louange. La louange est le fait de rendre gloire à Dieu par un acte de reconnaissance. On peut louer Dieu par différentes manières, par les mots, par notre attitude, par nos relations, par nos bénédictions, que sais-je encore, parce qu'il nous a fait de grandes choses. On doit louer Dieu dans les bons, comme dans les, je ne vais pas dire les mauvais moments, mais je vais dire les moments difficiles. Nos chants de louange doivent être gais, joyeux, dansant. Nous voyons David, d'ailleurs, pour dire sa reconnaissance, pour louer le Seigneur, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à danser. Tous n'ont pas cette capacité, nous tous n'avons pas cette capacité de danser comme David. Mais nous pouvons élever nos mains pour le louer. Nous pouvons acclamer pour le louer. Nous avons plusieurs raisons pour louer le Seigneur. Avant même qu'il ne soit né, le Seigneur Jésus, nous pouvons trouver ces éléments dans le livre de Luc, dans le chapitre 1. Je vais le raconter. Quand Marie, la mère de Jésus, et Élisabeth sont retrouvées, parce que Élisabeth avait 6 mois de grossesse, Marie venait juste d'avoir l'annonce par l'ange. Quand elles sont retrouvées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont loué Dieu. Et quand Jésus est venu au monde, qu'est-ce que nous faisons en décembre généralement? Nous nous retrouvons dans nos locaux pour chanter la gloire de Dieu, pour le louer, pour élever son nom, parce qu'il est venu nous sauver. À l'annonce de sa naissance au berger, Qu'est-ce qui s'est passé? Il venait de naître. Les anges sont descendus du ciel. Les anges sont descendus du ciel. Presque personne n'était encore au courant. Mais les anges sont descendus du ciel pour faire quoi? Pour le louer. Pour lui chanter des Alléluia. Et Jésus lui-même, il dira plus tard, quand il rentrait dans Jérusalem, si vous, qui êtes au bord de la rue, vous refusez de me chanter la gloire, de me louer, regardez, allez, les pierres qui sont là vont me chanter la gloire. Nous devons chanter gloire à Dieu. Nous devons louer notre Seigneur. Nous devons acclamer des mains pour lui. Comment devrons-nous louer le Seigneur? Le psaume 150 nous donne quelques éléments. Je me suis rendu compte que dans les psaumes, pratiquement partout, c'est les louanges. C'est les louanges. Les louanges, il y a encore les louanges. Et j'ai choisi quelques versets, il y en a tellement. J'ai choisi quelques versets dans les psaumes, psaume 150. Je vais lire le premier verset, le verset 3 jusqu'à 6. Louez l'Éternel. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les pianos, louez-le avec des guitares, louez-le avec la batterie, louez-le, comment ça s'appelle? Louez-le avec un tambourin, louez-le avec ce que vous avez. Et le psaume 63, verset 4, nous parle de le célébrer parce qu'il est bon. Nous trouvons encore où on nous dit, levez les mains pour louer le Seigneur. Louez-le avec votre bouche. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, la force au siècle des siècles. Notre Dieu est digne de louange. Pourquoi alors ne pas le louer? Que de raisons pour apporter louange à celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Celui qui, quand on était encore pécheur, quand on n'était pas digne d'être devant lui, quand on était par nos péchés noirs comme cramoisis, lui, saint, qui n'avait jamais péché, a accepté d'aller à la croix pour mourir, pour que toi et moi soyons sauvés. Quand la belle lune apparaît et je suis encore dehors, quelle beauté, quand je suis à la mer, quand je suis à la boule, regardez cette étendue de, quelle beauté, quand je suis pendant mes vacances, dans les montagnes, quelle main humaine est en mesure de faire le tiers de ça. Quelle beauté! Nous avons plein de raisons pour louer notre Créateur. Quand il pleut, nous devons louer le Seigneur. Quand il neige, comme ce fut le cas il y a quelques jours, et que la ville est paralysée. Où est le Seigneur? La louange est donc une preuve ou un témoignage de notre reconnaissance à Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Quand on loue Dieu, on doit être dans la joie. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Quand je chante, je suis heureux car Jésus. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je chante, je suis heureux dans la tristesse. J'aime bien moi quand je chante ces genres de chansons. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Avec une joie dans le cœur. Quand nous chantons, quand nous louons Dieu, vivons la chanson. Ma joie et ma passion à chanter pour le Seigneur font que le Seigneur accepte mes louanges et y siège. Quand nous nous réunissons, le Seigneur est parmi nous, comme le dit la Bible. Mais quand on élève nos chansons de louange, il vient y siéger. Lisons ce que nous dit les psaumes 22, le verset 4. Ce passage nous dit « Dieu siège au milieu des louanges ». Le verset parle des louanges d'Israël. Nous ne sommes pas le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu siège au milieu de nos louanges. Invitons donc, faisons donc en sorte que Dieu siège dans nos louanges. Quelle louange apportons-nous à Dieu? La louange ne doit pas se résumer à celui qui est devant et dirige la louange. La louange ne doit pas se limiter au groupe et deux, trois personnes parmi nous. Le moment où nous louons Dieu, c'est le seul moment où les responsables devant et le peuple disent la même chose. Ce n'est pas le moment comme celui-là où vous vous êtes assis et moi je parle et vous vous écoutez. Ce n'est pas le moment où un frère passe devant pour donner un témoignage. Ce n'est pas le moment où deux personnes circulent pour nous faire la sainte scène. Le moment de louange, c'est le moment où à l'unisson, nous faisons quelque chose à Dieu, tous ensemble. Et ce moment doit être un moment privilégié. Ce moment doit être un moment vécu. On ne doit laisser personne sur le quai. Personne sur le quai. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'expérimenter la joie de la louange où vous vous sentez bien, la louange où vous avez la solution à quelques difficultés, la solution où vous étiez il y a quelques moments triste. Mais c'est ce cantique que le directeur du programme a choisi. Vous le chantez. Et vous êtes bien, vous êtes soulagé. C'est peut-être pas arrivé à tous d'entre nous. Moi, je l'ai connu. Et ma prière, c'est que chacun de nous puisse connaître ces moments de réparation, ces moments où notre Seigneur nous donne gratuitement, résout nos problèmes gratuitement, gracieusement. Une bonne louange, une louange que l'on vit pleinement, peut être une solution. Il y en a qui viennent dans une église une fois et ne reviennent pas une deuxième fois. On ne sait pas pour quelle raison. Chez nous ici, il y en a plein qui sont restés. Je suis un témoignage vivant parce que il y a la gentillesse, il y a l'accueil dans cette église. Ce genre de témoignages, on peut les multiplier. Mais je veux dire, dans d'autres églises, il y en a qui sont restés parce qu'ils ont trouvé la louange. La louange ne fait pas une église. La louange ne sauve pas. Mais la louange nous permet, la louange et l'adoration nous permet de nous approcher encore plus de Dieu. En louant le Seigneur, vous pourriez aussi connaître votre miracle. L'histoire de Paul et de Silas. Dans le livre des Actes, ils étaient emprisonnés. Je ne sais pas, j'ai pas pu avoir l'idée de ces prisons, comment c'était à cette époque-là. Mais quand nous imaginons, nous voyons ce que pouvaient être les bagnes dans les châteaux, ça doit être reclus, et puis voilà. Ça doit être quelque chose comme ça. On se plaint pour les prisons au jour d'aujourd'hui dans notre société, qui ne sont pas bien, il y a des rats, il y a ceci, il y a cela. Mais je peux me permettre de dire, la modernité de cette prison n'a rien à voir avec ce que pouvaient être ces prisons où Paul et Silas étaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, Paul et Silas? Gloire à Dieu. Tu es bon. Tu es merveilleux. Ils chantaient à Dieu. Et la Bible nous dit que tous les autres prisonniers entendaient ce qu'ils disaient. Ils entendaient leurs chansons, leurs louanges à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les portes se sont ouvertes. Tu es dans quelle prison? Tu es dans quelle difficulté? Est-ce que tu penses que par des louanges, par tes louanges, Dieu peut te sortir de là? Moi, je le crois. Dieu, il est en mesure de nous trouver nos solutions parce que nous lui apportons comme des louanges. J'ai dit en début de ce message que je laisserai un moment pour que nous apportons adoration tous. Il y en a certains, on a chanté au début, ça monte, ça peut descendre. Si nous pouvons prendre deux cantiques à votre choix et que vous nous fassiez vivre ces cantiques, que vous nous fassiez, si on ne la connaît pas, prenons-la, nous avons 15 minutes, si on ne la connaît pas, on va la reprendre. Et j'étais assis quelque part ici, il y a quelques semaines, où je pensais chanter un cantique, et ma fille me dit, qu'est-ce que tu chantes fou? Et je me suis rendu compte, je pensais que oui, non. Et je me suis dit, si ma fille me le dit, c'est vrai, elle a dit vrai. Je me suis remis en cause, je me dis, est-ce que par ces fausses notes qu'il y a dans ma manière de chanter, est-ce que ça ne gêne pas mon voisin? Mais parce que nous sommes tous éduqués, bien éduqués ici, personne n'ose dire à l'autre. Apprenons à chanter. Apprenons à louer le Seigneur. Apprenons à lui apporter des louanges dans lesquelles il trouve sa place. Que Dieu vous bénisse.